Face à la colère qui gronde, l'État grec s'organise. Il ne s'agit pas seulement de répression au sens d'intervention policière, militaire, judiciaire localisée. L'idée, c'est plutôt de s'attaquer en profondeur aux dimensions conceptuelles, affectives et culturelles de la révolte. Réduire progressivement les espaces de vie, enfermer chacun dans la peur et le défaitisme, afin de ramener une large majorité de la population à l'adhésion aux valeurs d'État. À partir d'un texte qui date de décembre 2009 et qui s'appelle « Une pincée de sucre et tout s'adoucit », on va disséquer ces stratégies que l'État grec met en place pour essayer de casser les volontés de révolte et revenir à la normale, c'est-à-dire à la passivité démocratique. D'abord, le contrôle du territoire. Ce quadrillage de l'espace s'articule autour du contrôle des populations défavorisées. Pour ça, l'État procède, notamment dans le centre d'Athènes, à une vaste opération de nettoyage, d'isolement, d'assèchement. Cette bonne vieille technique de la carotte et du bâton, toujours efficace. Certains rassemblements sont interdits, certains logements détruits ou expulsés sous prétexte d'insalubrité. Et parallèlement, sous le voile protecteur de la social-démocratie, le gouvernement tente d'assujettir des catégories particulières, notamment les migrants, par leur assimilation, en leur promettant la régularisation des enfants, le droit de vote aux élections municipales, etc. L'occupation policière quotidienne de certaines zones, comme le quartier d'Exarchia à Athènes, permet elle aussi d'isoler des éléments incontrôlables de leur terrain d'action favorable, de défaire les liens de sympathie ou de tolérance. Les flics, les contrôles d'identité, la surveillance deviennent omniprésents. L'État met ainsi en scène une démonstration de sa supériorité militaire et sa capacité à déployer des forces plus grandes encore. Enfin, les universités sont depuis longtemps un lieu privilégié d'occupation et de rassemblement parce que la constitution grecque interdisait jusqu'à présent à la police d'y entrer. C'est ce qu'on appelle la franchise universitaire. L'État considère et fait savoir actuellement que ce sont des espaces à reconquérir, à réoccuper dans leur totalité et de façon continue. Ce contrôle du territoire prend donc des formes variées et complémentaires. Il est d'ailleurs loin d'être une spécialité grecque, puisqu'on retrouve ce même type de pratique en d'autres lieux et en d'autres circonstances. Mais il se trouve accentué en Grèce à cette période-là dans un but bien précis, celui d'empêcher la construction ou le maintien de toute forme d'affinité politique et sociale. Le second procédé, c'est de rallier le mécontentement général à la réforme. Le gouvernement réengage donc des négociations dont il sait qu'il sort toujours gagnant pour ramener la population à une position revendicative dont elle s'était extraite en décembre. Le discours de la patience nécessaire et de l'espoir est une manière d'inclure les antagonismes de classe, de faire tenir les privilèges. Une politique d'aménagement à l'intérieur du système d'exploitation pour faire taire ceux qui veulent sa destruction. Ce rôle d'acteur de la paix et du retour à la normale est joué, comme d'habitude, par la gauche parlementaire. Les différents partis, par leurs actions, font tout pour engluer les luttes dans les limites des institutions capitalistes. Les directions syndicales socialistes conservent jusqu'à présent une influence paralysante, s'efforçant d'éviter toute véritable résistance aux offensives de l'État. Le retour de la gauche au pouvoir début octobre 2009 participe de cette imbrication. L'une des tactiques centrales, c'est de présenter l'insurrection comme un recul, en inversant le rapport cause-conséquence. Il faudrait donc faire corps avec le système de valeurs de l'État, qui ne serait pas un mécanisme de contrainte, de loi et d'ordre, mais ce soi-disant dispositif de dialogue, de négociation, de compromis. Les instincts les plus conservateurs de la société sont agités. Et c'est comme ça que la colère est transformée et devient l'expression d'une demande répétée d'inclusion dans la grande communauté du capital. Enfin, les liens, les relations de complicité créées pendant la révolte s'amenuisent un peu. Il est difficile de savoir ce qui, dans cet effilochement, est dû aux tactiques du pouvoir et ce qui est lié aux limites de la révolte elle-même. Ce qui est certain, c'est que, sur ce plan, l'État s'empresse de reconstruire des catégories, de séparer. Il distribue les responsabilités, les culpabilités, et entretient ainsi un climat de peur. À grand renfort de médias, on dissocie les émeutiers et les idéologues, comme on distingue en France les manifestants et les casseurs, pour que chacun reste bien à sa place. Ces définitions restrictives ont pour objectif d'amener une partie des révoltés à imposer d'eux-mêmes une dissolution, ou à ramener les autres à la raison. Le retour à la normale serait ainsi sondé et contrôlé par les insurgés eux-mêmes. La répression policière, les différentes procédures judiciaires, créent une atmosphère de suspicion et de paranoïa. C'est une guerre psychologique basée sur des procédés de menace et de contrôle. Elle vise à isoler le sujet de son propre vécu, à faire de tout être un être pensant comme l'État, et ainsi à créer un fossé indépassable entre les possibles qui s'étaient dégagés en décembre et le présent. À travers une grille de lecture moralisatrice de la violence révolutionnaire, à droite comme à gauche, on condamne la violence d'où qu'elle vienne. Tout acte de violence serait par essence un acte de violence gratuite, catalyseur principal d'un retour imaginaire vers l'autoritarisme. La criminalisation de certains choix et de certaines pratiques est une tactique classique de la dépolitisation. Elle permet de réprimer facilement tous ceux qui se sont engagés dans ces voies. Les mandats d'arrêt émis aujourd'hui contre tous ceux qui sont accusés de participer à des entreprises terroristes visent à contenir une population radicale et incontrôlable plus large. Reste à savoir dans quelle mesure ces stratégies ont fonctionné. Des formes autonomes d'organisation et de nouveaux contenus de lutte peuvent encore émerger pour que la peur change de camp.